Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, élu de France Bleu RCFM à Ajaccio, en Corse, et en direct de la capitale égyptienne, Dina Abdelmeguide de Radio Le Caire. Bonjour Dina.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde et joyeux Ramadan.
Voilà, et Dina, tu nous présentes le sommaire de ce numéro de Cantara qui débute vraiment par le Ramadan.
Voilà, j'ai choisi de vous faire vivre le Ramadan en Égypte et nous allons partager l'ambiance de ce mois sacré dans les rues du Caire. Une invitée de marque dans ce magazine, Laila Slimani, prix Goncourt 2016, était à l'Institut français de Madrid cette semaine. Fanny Chaurier de la radio espagnole RTVE l'a rencontrée pour nous. Il y a en France 12 millions de personnes handicapées et leur situation n'a pratiquement pas été évoquée lors de la dernière campagne pour la présidentielle française.
Au Maroc, l'Assemblée parlementaire de la francophonie élargit son intérêt pour la langue française, bien entendu, mais aussi pour toutes les questions d'ordre économique, culturel, des pays de la communauté francophone. Enfin, nous irons en Tunisie pour présenter Terroriste moins quart, la dernière pièce de l'artiste tunisien et homme de théâtre Raouf Ben Yahlan. Pour l'auteur, cette pièce est un outil de lutte contre le terrorisme.
Cantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Linda Bouadma, France Bleu, RCFM Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, Chaîne Inter Rabat, Nadira Belkhoutout et Mohamed Chafoui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Mayada Sili, Radio Le Caire, Dina Abdelmeguide et Radio Extérieur d'Espagne, Emmanuel Zahar.
Alors, on débute avec une chanson un peu entraînante hein, pour débuter ce Cantara avec DJ Maui Africa et le titre « Main froide ».
Une main froide saisit ta nuque, un collier serre ta gorge, un poids sur le torse t'empêche de respirer, un baillon serré t'empêche de crier, t'empêche de crier. Wow, wow. La main froide écrase ta nuque, le collier serre. Tiens sous l'eau, tu suffoques et tout. T'es presque mort. Est-ce ton histoire? Est-ce mon destin? Est-ce ton histoire? Est-ce mon quotidien? Quel espoir pour les tiens et les miens? Quelle issue et quel autre chemin? Est-ce ton histoire? Est-ce mon destin? Est-ce ton histoire? Est-ce mon quotidien? Quel espoir pour les tiens et les miens? Quelle issue et quel autre chemin?
C'était DJ Maui Africa et sa chanson « Main froide ». On parlait du Ramadan, c'est le mois sacré, donc on va s'y plonger grâce à toi, Dina. Tu vas nous faire vivre un peu le Ramadan à travers les témoignages des Égyptiens du Caire. Bien sûr que l'ambiance est particulière, hein, les repas, les cafés anciens, les rues décorées, les feuilletons télévisés, les nuits du Ramadan. Tant d'aspects festifs marquant ce mois sacré. On écoute ton reportage, Dina.
Ramadan Gena, une très très vieille chanson avec la voix de Mohamed Abdelmuttalab. Dès qu'on annonce le début du mois de Ramadan, on écoute cette chanson qui reste une tradition de mois de Ramadan. Rien de tel que de vivre l'ambiance toute particulière du Ramadan au Caire. Les tentes, les soirées de Ramadan. Que vous soyez riche ou pauvre, musulman ou pas, Ramadan est une histoire. Ce mois a une particularité incomparable qui inonde les âmes d'une douce joie. Que font les Égyptiens pendant le mois de Ramadan? Écoutons ces témoignages.
Je suis impatiente d'attendre le Ramadan. Chaque année, il y a beaucoup de choses que je dois faire. D'abord, j'achète les décorations, les lanternes et les lampes avec lesquelles je décore la maison. J'achète des petites lanternes à mes enfants et à ma famille. J'invite mes amis à la maison pour iftar, pour tester mes différents plats.
Normalement, mon jour au mois de Ramadan ne change pas, comme je suis chrétien. Je garde mon rythme habituel, mais j'aime bien prendre les suhours dans le roux. J'aime cette ambiance festive de Ramadan.
En ma jour de Ramadan, avant l'iftar, je vais aider ma mère dans la cuisine. Après le repas, je regarde la télé avec ma famille. Puis, je vais prier la tarawih à la mosquée.
J'aime le sport et je les pratique souvent avant l'iftar. Après l'iftar, je reste avec la famille et regarde la télévision.
Ramadan pour moi est le mois préféré. L'atmosphère est différente que nous permettent d'approche plus de Dieu. Avant le jeûner, je prépare l'iftar. Puis après, je viens à la mosquée pour la prière de tarawih.
En ce Ramadan, je veux passer ma journée jeûner en étudiant. Après l'iftar, je vais prier le tarawih. Ensuite, je veux aller au gym. C'est mon habitude.
Pour moi, chaque Ramadan, je dis que je vais faire mon to-do list pour organiser mes journées pendant Ramadan, mais je n'ai jamais arrivé. J'aime beaucoup cuisiner l'iftar avec ma mère et inviter de nouvelles recettes. Pendant ce mois, je rencontre les membres de ma famille que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je reçois toujours des invités à l'iftar. J'adore l'ambiance de ce mois, l'odeur des rues, les fawanis et l'idée que nous mangions tous en même temps.
Ce mois sacré du Ramadan est considéré comme un moment festif où la cuisine est mise à l'honneur. La nourriture abonde et les réunions familiales sont nombreuses.
Le fanous du Ramadan est aussi un art folklorique attirant l'intérêt des artistes et des spécialistes. Le fanous s'est transmis de génération en génération, attirant surtout les enfants qui le portaient dans les rues en chantant des airs ramadanesques tels que « Wahawi ya wahawi, hallo ya hallo ». Le coup de canon du Ramadan annonçant la rupture du jeûne est l'un des aspects marquants du mois sacré. Avec le tir de canon et la rupture du jeûne, se font entendre les versets du Coran des mosquées et l'appel à la prière. Repas, rue, prière, tradition, célébration, tant de choses, mais tout est particulier durant ce mois. Même un simple thé prend une saveur d'exception.
مرحب شهر الصوم مرحب ليالي قعدت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك
يا رمضان
ونعيش ونصومك
يا رمضان
مرحب بقدومك
يا رمضان
ونعيش ونصومك
يا رمضان
بعد انتظارنا وشوقنا إليك يا رمضان
Voilà, nous avons vécu le Ramadan qui s'achève le 24 juin avec Dina dans les rues du Caire. Dina, c'est vrai que la fête religieuse est forte, mais c'est aussi le Ramadan, un rendez-vous incontournable pour les familles qui se réunissent tous les soirs. C'est un moment fort aussi dans la vie d'une famille.
Bien sûr, c'est très fort puisque c'est le seul mois, dirais-je, que toute la famille se réunit en même temps elle est à table en même temps. Sinon, toute l'année, le rythme est différent. Le père, il rentre à telle heure, les enfants rentrent de l'école ou de l'université à telle heure. Donc, on n'est jamais, jamais toutes en même temps là. Donc, c'est une occasion aussi de rencontrer toute la famille, les cousins, les cousines, les amis. C'est vraiment très intéressant et très joyeux. Et c'est une occasion de vraiment rencontrer tout le monde.
Alors, l'impression, on a entendu dans tes reportages, dans tes témoignages, que toutes les communautés se regroupent. Hein. Les chrétiens aussi participent, notamment à la fin au Leftar.
Oui, l'Eftar, voilà, c'est la fin, c'est la rampe du jeûne, la fin du jeûne, et on est invité, c'est-à-dire on invite nous aussi nos amis chrétiens, les voisins, les amis, et eux, par contre, après l'Eftar, il y a les soirées, et là, tout le monde sort, ils aiment prendre le sahur, et le sahur, c'est le repas, le dernier repas avant l'aube, pour pouvoir continuer la journée. Alors là, c'est toujours très tard, et tout le monde sort, chrétiens, musulmans, tout le monde est dans la rue pour prendre le sahur.
Alors, Dina, il fait chaud en ce moment. Comment s'organise une journée lorsque l'on pratique, qu'on respecte le ramadan? C'est compliqué?
On s'est habitué parce que ça fait 5 années que Ramadan vient en été, donc on a vécu le mois d'août, le mois de juillet, maintenant c'est le mois c'est la fin mai juin, donc c'est plus clément, alors qu'on a cette année exceptionnelle quelques vagues de chaleur, mais normalement ce qui manque ou ce qui nous gêne, c'est le manque de sommeil. On n'arrive pas à vraiment prendre notre besoin de dormir puisque on est toujours éveillé. Le matin, on est au travail, on rentre, les femmes préparent la cuisine, le père peut-être rentre tard, il fait la sieste ou bien il lit le Coran, et après l'iftar, ils font faire la prière, et après la prière, on reste devant la télé, on crée, pour regarder la télévision, et là, il faut dire que les feuilletons du mois de Ramadan sont quelque chose, un événement, et l'Égypte reste toujours pionnière dans ce domaine. Dans toutes les chaînes, on a plus de 30 productions cette année. Alors, on regarde le feuilleton jusqu'au moment de sahur, juste avant l'aube. Et quand je dis l'aube, c'est-à-dire à 3 heures du matin. Et là, on commence à dormir après 4 heures. Donc, 4 heures du matin, on se lève, on se réveille à 8, 9, ça dépend du travail, parce qu'il y a, les horaires changent aussi, et on termine à 14 heures. Voilà.
Et dans ton reportage, et on va conclure là-dessus, tu dis tout est particulier, même un thé est meilleur en période du Ramadan qu'en période normale.
Ben oui, parce que le thé est aussi avec, il est accompagné des douceurs du mois de Ramadan devant le feuilleton qu'on l'attende, ou bien dans un café, un ancien café avec les amis, donc c'est très très joyeux.
Très bien, donc bon Ramadan bien entendu à tous les musulmans, et j'espère que tout le monde va le fêter aussi en Égypte. Nous étions à Beyrouth il n'y a pas si longtemps. Dina, là aussi, les chrétiens et les musulmans fêtent leur fête commune ensemble. Je crois que c'est un peu un symbole et c'est un exemple. Allez, on va partir en Espagne où Leïla Slimani, le prix Goncourt 2016, était l'invitée de l'Institut français de Madrid cette semaine. Fanny Chaurier l'a rencontrée pour les émissions en français de la radio-télévision espagnole. Il est question de la difficulté de se glisser parmi les goncourable lorsqu'on n'est pas un homme, lorsqu'on n'a pas 40 et entre 40 et 60 ans et que l'on ne traite pas de thèmes majeurs, mais d'histoire du quotidien. On écoute l'interview de Leïla Slimani réalisée par Fanny Chaurier.
Nous avons rencontré Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, en visite à Madrid avec l'Institut français. À seulement 35 ans, cette journaliste et écrivaine franco-marocaine devient la 12e femme en 113 ans à remporter ce prix. Elle nous a livré ses impressions sur cette récompense et nous a expliqué l'origine et l'ambition de son deuxième roman, Chanson douce. Que représente pour vous ce prix?
Ah bah, le prix Goncourt, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se fait de mieux. Donc ça représentait avant l'inaccessible, vraiment la reconnaissance ultime. Donc voilà, et aujourd'hui je me rends toujours pas compte que je l'ai eu. D'ailleurs, ça me fait toujours très très bizarre, j'arrive pas à atterrir.
Il s'agit de votre deuxième roman, est-ce que vous vous y attendiez?
Non, pas du tout, parce que vraiment je correspondais pas du tout au profil. C'était effectivement mon deuxième roman, Le sujet, c'est quand même un sujet qui n'a... C'est pas le genre de sujet que prime le prix Goncourt. Un sujet autour de la maternité, d'une nounou, avec un côté un peu thriller et tout. C'est pas tellement le genre du Goncourt. En plus, voilà, je suis une femme, j'ai 35 ans. Le Goncourt, c'est plutôt un homme blanc de 50-60 ans sur un sujet très noble comme la guerre, etc. Donc je correspondais pas tellement au profil. Donc en même temps, c'était bien parce que j'étais pas stressée, parce que je m'y attendais pas du tout. Donc voilà.
Alors décrivez-nous justement Chanson douce.
Alors Chanson douce, c'est l'histoire d'un couple qui s'appelle Myriam et Paul, qui appartiennent à la classe moyenne, qui sont des bobos parisiens et qui ont deux enfants petits dont s'occupe la maman. Et quand elle décide de retravailler, elle engage une nounou qui s'appelle Louise, qui se présente comme une nounou absolument parfaite et qui va prendre de plus en plus de place dans leur vie, dans leur quotidien, jusqu'à ce qu'elle prenne un peu trop de place et que des relations de plus en plus complexes et ambiguës se mettent en place à l'intérieur de cette famille.
Et c'est une histoire tirée d'un fait.
En fait, le meurtre est tiré d'un fait divers. C'est-à-dire qu'il n'y a que le meurtre qui est tiré de ce fait divers, mais l'histoire elle-même est totalement inventée, puisque je ne sais pas comment ont vécu ces gens avant le fait divers. Donc le fait divers m'a donné l'idée, mais en revanche, rien n'est... je ne suis pas fidèle au fait divers.
Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce thème?
Parce que je trouvais ça très très intéressant, la relation qu'on peut avoir avec sa nounou. Je trouve que ça révèle beaucoup de choses. Je trouve que c'est une relation très romanesque, parce que les nounous sont des femmes qui élèvent des enfants mais qui ne sont pas leurs enfants, qui vivent dans des maisons mais qui ne sont pas leurs maisons, à qui on dit vous faites partie de la famille mais qui ne font pas partie de la famille. Et donc c'est des personnages qui sont toujours dans une espèce de dualité, dans une position extrêmement ambiguë. Et je trouve que le rapport qu'une certaine bourgeoisie ou bobo, enfin gens bobo peuvent nouer avec les nounous révèle aussi beaucoup de choses d'une certaine lutte des classes feutrée. Et puis c'est une relation de pouvoir qui est très paradoxale, parce qu'il y a le pouvoir classique de l'employeur sur l'employé. Et en même temps, c'est des gens qui ont la garde de vos enfants. Et quand on touche à vos enfants, on a le pouvoir sur vous. Et donc voilà, c'était tout ça qui m'intéressait.
Très bien. Et vous êtes la 12e femme sur 113 ans à remporter le prix Goncourt. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
C'est extraordinaire. Et d'abord, c'est la preuve que les femmes peuvent écrire des romans et puis y écrire des bons romans. Et puis, je trouve ça très important de consacrer les femmes en littérature. Pendant très longtemps, on n'a pas permis aux femmes de publier sous leur vrai nom. On a considéré que c'était très tabou qu'une femme, plutôt que de s'occuper de son foyer et de ses enfants, se mette à un bureau pour écrire des romans. C'était très mal vu. Et c'est bien, ça veut dire qu'aujourd'hui s'installe l'idée que les femmes peuvent être à la hauteur des hommes lorsqu'il s'agit de grande littérature. Et c'est surtout ça le problème, que les femmes puissent donner leur vision du monde.
Voilà, c'était l'interview de Leïla Slimani qui est passée par Madrid et par l'Espagne. C'est vrai que d'entendre une voix de femme comme ça, qui a eu le prix Goncourt, c'est toujours rafraîchissant avec un sujet quand même qui concerne toutes les familles, hein, Dina.
Oui, un sujet intéressant quand même, le rôle de la nounou dans la famille. Parce que, en fait, il y a un côté positif et un côté négatif. Il y a des gens qui ne voient pas que il faut vraiment laisser l'enfant à sa nounou et qu'elle remplace complètement la maman. Et la maman ignore tout ce qui se passe dans la vie de son enfant. Et l'autre côté, qu'il faut vraiment être reconnaissant pour cette nounou qui garde notre enfant alors que c'est pas le sien, et elle le traite comme c'est son enfant, elle l'éduque et elle l'élève, quoi.
C'est vrai que c'est un rôle ambigu, parce qu'elle le dit bien dans ce roman, c'est que la nounou a un rôle particulier, elle fait pas partie de la famille, elle est là un peu en situation entre deux eaux, parce que elle peut pas trop s'impliquer, mais elle a aussi un devoir de s'impliquer pour l'éducation des enfants. Donc c'est vrai, et donc ce roman a rafraîchi un peu le prix Goncourt avec cette femme. Le titre, on vous rappelle, c'est La Chanson douce, et je conseille, toi aussi, hein, Dina, à toutes les mamans et à tous les papas de lire. De lire ce roman qui est aussi un peu un thriller. Donc merci en tout cas à Leïla Slimani d'être passée par les studios de la radio espagnole. Allez, on va maintenant écouter une chanson espagnole que tu nous présentes, Dina.
Avec son inséparable Borsalino, son air de se trouver partout, toujours par hasard, Tony Zenet s'est forgé, peut-être même sans l'avoir vraiment cherché, une solide réputation de troubadour du XXIe siècle. Un troubadour, mais aussi un acteur reconnu que nous découvrons ici dans cuando te enfadas, lorsque tu te fâches.
Dices que no eres tú misma, que te echa un encanto, que voy a traición. Dices que no te lo explicas, que no soy pa' tanto, que te gustan algo más guapo que yo, que solo hay un paso del odio al amor. Dices que te sepo a poco, que te suena chino, que no puede ser. Dices que no sabes cómo, siempre das conmigo. Lo tuyo y lo mío es cuestión de piel. Dices que te han dicho que no se quiere. Dices que no te provoque, que me tienes ganas. Dices que no te provoque, que me tienes ganas. Pero qué guapa te pones cuando te enfadas. Dices que no juego limpio, que huele a tormenta, que no hay más que hablar. Dices que siempre te pillo, baja de defensas. Que si quiero guerra me la vas a dar. Que tú eres de esas que se hacen rogar. Dices que no te provoque, que me tienes ganas. Dices que no te provoque, que me tienes ganas. Pero qué guapa te pones cuando te enfadas.
C'était le troubadour espagnol qui s'appelle Tony Zenet et qui nous chantait « Cuando te enfadas ». On va passer en France avec un sujet quand même assez lourd. Hein, et c'est vrai que c'est un sujet qui concerne 12 millions de personnes en France, parce qu'en France, il y a 12 millions de personnes qui sont handicapées. Et la problématique du handicap est l'un des chapitres les plus importants de la politique sociale des gouvernements, mais elle est souvent oubliée par les pouvoirs publics. La dernière campagne pour les présidentielles françaises en a été un exemple. On écoute le reportage de Pierre-Louis Alessandri.
Le dernier président de la République à avoir investi en faveur des handicapés a été le président Chirac. Sa loi du 11 février 2005, qui instituait une prestation de compensation pour les handicapés, a été peut-être une des plus progressistes de ces 20 dernières années. Les aides techniques et humaines ont progressé sensiblement et l'obligation de rendre accessibles les établissements recevant du public et les espaces urbains est devenue une obligation légale. Chaque année, par le biais de la Caisse nationale pour l'autonomie, c'est près de 3 milliards qui sont consacrés aux handicapés. Mais très vite, les gouvernements successifs ont détricoté la loi Chirac et l'État s'est dans de nombreux domaines désengagé financièrement. La dernière campagne des présidentielles a laissé les handicapés hors du débat, même si l'actuel président de la République vient d'annoncer des mesures, notamment en faveur de l'autisme. Comment comprendre cet oubli? Réponse du directeur général de l'Association des paralysés de France, Prosper Teboul, l'APF, qui est la principale association française dans le domaine du handicap moteur, avec ses 14 000 salariés, ses milliers de bénévoles et ses dizaines d'établissements spécialisés.
On a fait ce constat de l'absence de la problématique handicap au niveau de la campagne à travers un sondage qu'on a mené en lien avec l'IFOP en février. Il faut savoir que 5 000 personnes en situation de handicap ont été interviewées par l'IFOP pour effectivement faire ressortir à la fois cette impression d'absence, on va dire, de la campagne, mais également tous les besoins liés à la situation de handicap. Je tiens quand même à souligner qu'en France, le handicap touche 12 millions de personnes. Ce n'est pas une paille, c'est à la fois essentiellement des personnes en situation de handicap, mais également leurs proches, leurs familles, leurs aidants. 12 millions de personnes. Faire un constat que les problématiques de 12 millions de personnes ne sont pas prises en compte suffisamment au niveau de la campagne, c'est un constat qui doit alarmer. Alors, vous me posez la question sur le pourquoi. Effectivement, on peut dire que le handicap n'a pas été une priorité. On peut au moins noter maintenant, à l'issue de la présidentielle et avant les législatives, qu'il y a eu quand même un progrès. Entre le début de la campagne où nous avons manifesté notre désarroi, on va dire, par rapport à cette absence, et la fin de la campagne...
L'actuel président de la République a dit un certain nombre de choses.
Exactement. Effectivement, oui. Et effectivement, on peut dire que les programmes se sont étoffés au fur et à mesure de cette prise de conscience.
Alors, l'APF, c'est une des associations les plus importantes dans le monde du handicap. Des milliers de bénévoles, de salariés, la gestion de dizaines d'établissements. C'est une association reconnue d'utilité publique. Donc, il faut quand même compter... Avec vous, qu'est-ce que vous attendez du nouveau pouvoir? Quelles sont les priorités selon vous?
Nous avons nous-mêmes un programme. Ce n'est pas l'exclusive des partis politiques et des hommes politiques d'avoir un programme. L'APF a elle-même son programme. Effectivement, pour être très synthétique, nous avons axé notre programme autour de 5 mesures prioritaires. La première mesure, c'est une meilleure prise en charge financière et une création du risque autonomie.
Autonomie, oui.
Par rapport aux aides humaines, par rapport aux aides techniques, à l'aménagement du logement, du véhicule, au soutien.
Mieux
financer la compensation. Exactement. D'ailleurs, au niveau du sondage de l'IFOP, c'est ce qui apparaît en premier. Deuxième mesure prioritaire, c'est la création d'un revenu individuel d'existence qui ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté. Ça passe par une revalorisation de l'AAH. Troisième mesure prioritaire, le développement de l'accessibilité pour que la culture soit accessible, les magasins, les structures, les hôtels soient accessibles, la santé soit accessible, etc. Ça, c'est une...
Accès à tout pour tous. Exact. C'était le slogan de l'APF.
Mais ça reste reste encore le slogan de l'APF. Et heureusement. Mais attention à ne pas caricaturer l'accessibilité. C'est pas simplement l'accessibilité par rapport au bâti, c'est l'accessibilité à la santé, à la culture. Quand une personne veut aller au théâtre, elle doit aller au théâtre en fauteuil, par exemple, en choisissant non pas d'abord le lieu, mais la pièce qu'elle a envie d'aller voir. Et non pas parce que ce théâtre est exceptionnellement accessible. Autre priorité, oui. Je ne peux pas l'oublier, c'est véritablement l'accès et le maintien dans l'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'il y a 500 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Et là, c'est une priorité des priorités.
Les handicapés de France attendent donc des mesures de la part du nouveau pouvoir.
C'était Pierre-Louis Alessandri qui nous parlait des handicapés, 12 millions de personnes, et c'est vrai qu'on les oublie, on les a oubliés dans la campagne électorale, on voit que la ville, les villes, les cités ne sont pas accessibles complètement à ces personnes handicapées, et c'est le cas en France et je suppose que c'est le cas en Égypte, Dina.
Pire qu'en France, parce qu'en fait, vous aussi, il y a parfois quelques théâtres, quelques lieux, alors que chez nous, il n'y a presque pas, c'est-à-dire non. Même dans les nouvelles constructions, on fait pas en sorte qu'il faut mettre place pour ces handicapés. C'est très peu en Égypte. C'est pas très répandu. Quoique les handicapés ont un certain quota dans la vie, dans le travail, dans la vie, dans le Conseil des députés. Donc ils ont un certain quota, mais la ville, elle n'est pas vraiment très faite pour eux.
Les transports en commun non plus?
Pas du tout, du tout. Les transports en commun, c'est pas pour les gens normaux aussi.
Donc il y a du boulot, il y a encore du travail, et c'est bien que Pierre-Louis Alessandri, qui est un militant, bien entendu, de cette cause, nous a fait part de ces problèmes, cette problématique qu'on est loin d'être de régler. Mais enfin, s'il y a un peu de progrès déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on attend beaucoup de la nouvelle, du nouveau gouvernement, du nouveau président de la République en France, justement, pour aller un peu plus loin. Allez, on va écouter une chanson de notre ami Tony Sampieri qui va nous chanter Corti Gamei. Et c'est une nouvelle version de cette chanson, donc, par Tony Sampieri.
A mania bonora, me sguardo da I vigo con amore e tu mi si strigni. A to chiama lontana l'intesi una mani. A giù branca tu mari par capia dove arra. Yeah. brisi e canti da punenti arrivanti. Se libera e manza mi piace dove al danza. Scontrati e ma colsi sincera, da tanto mi seguite come l'ombra in aserra. Un mio sguardo lontano mi porta verso te, ma quanto sforzi torna para manzare.
C'était Tony Sampieri avec Corsigame et maintenant Dina, nous partons au Maroc.
Oui, au Maroc, l'Assemblée parlementaire de la francophonie élargit son intérêt pour la langue française, bien entendu, mais aussi pour toutes les questions d'ordre économique et culturel des pays de la communauté francophone. Lors de sa dernière réunion, il a été question de la stabilité et de la sécurité dans ces pays. Écoutons Nadira Belkhoutout.
Rabat a abrité cette semaine la 25e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le débat a porté sur la stabilité économique et la conciliation entre la démocratie et les impératifs de la sécurité. La vision humanitaire du Maroc pour contribuer au développement durable en Afrique a été également à l'ordre du jour et la bonne gouvernance en Afrique. Oba Minanko, président de l'Assemblée parlementaire, a salué à cet égard les efforts du Maroc en faveur de l'Afrique.
Nous, Africains, sur cette terre marocaine, qui joue de nouveau un rôle très actif, très dynamique au sein de l'Union africaine. Nous allons réfléchir pour que nous puissions, face à nos collègues d'autres pays, d'autres continents, savoir démontrer la nécessité de conjuguer à la fois la démocratie, les valeurs démocratiques, état de droit, liberté individuelle, conjuguer ces valeurs avec l'impérieuse nécessité d'une stabilité dans nos pays, stabilité tant sur le plan de la sécurité que sur le plan macroéconomique, sur le plan de l'économie réelle, parce que après tout, nous avons été élus par différents peuples pour asseoir le bien-être de ces populations, et c'est un tout. Vivre la démocratie, asseoir la stabilité et créer la richesse pour le peuple. Tout cela constitue un tout. Et donc, nous devons savoir comprendre les spécificités africaines en tant que parlementaires pour mieux les défendre face à d'autres collègues.
C'était le reportage de Nadira Belkhoutout avec cette réunion de ce Parlement de la francophonie. On s'aperçoit quand même que le Maroc maintenant entend jouer un rôle plus important dans l'Union africaine. Elle a fait son retour et elle marque quand même ce retour avec des initiatives assez fortes, Dina.
Oui, ça se voit après 30 ans d'absence, voilà. Donc le Maroc veut vraiment jouer un rôle important dans l'économie et c'est ça la première chose qu'on puisse faire et la plus facile disons jusqu'à aboutir à la politique, un rôle politique.
Et on reste au Maroc, Dina.
Oui, on reste au Maroc avec le groupe Tefyour, le titre de sa chanson Jamais.
Après le Maroc, nous allons en Tunisie. Terroriste moins quart est la dernière pièce de l'artiste tunisien et homme de théâtre Raouf Ben Yahlan, considéré par l'artiste comme un outil de lutte contre le terrorisme. Cette pièce met en scène le personnage principal face à son auteur qui essaie d'intervenir sur les périodes sensibles qui ont fait de son personnage une proie facile à piéger afin de le dissuader d'adhérer au projet terroriste. Cette démarche est mise en scène à travers des reconstitutions de situations les plus décisives, les plus déterminantes dans la vie du personnage et selon ce que le personnage aurait pu espérer de vivre. La première de cette pièce a été donnée le 20 mai au Théâtre municipal de Tunis. Maya Dassili a rencontré l'auteur.
Pourquoi ce titre, Terroriste moins quart?
Eh bien, parce que le problème, les personnages que je traite ne sont pas des terroristes. Les terroristes sont entre les mains de l'armée, entre les mains de la police. C'est la sécurité qui s'en occupe. J'ai posé des questions aux jeunes parce que le sujet m'a interpellé. Il fallait dépasser, je pense, le cadre de la version personnelle en tant qu'artiste. C'est évidemment notre travail, c'est subjectif. Mais il faut aller au-delà de la simple vision personnelle individuelle pour demander l'avis des spécialistes. Pour une fois, je me suis décidé d'aller demander la participation des spécialistes et des experts en matière de sécurité, en matière de criminologie, des psychologues, des sociologues, des officiers de l'armée, pour leur demander de me donner un éclairage qui me permette d'aborder cette question. Donc je me suis déplacé dans les villages, je me suis déplacé dans les villes, au nord, au sud, et surtout j'ai fait des cafés culturels, j'ai interpellé les jeunes, et surtout dans les zones, les populations en difficulté, les régions, j'allais dire, qui subissent la marginalisation, l'exclusion économique et sociale. Et je me suis adressé à ces jeunes-là. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensent. Et j'étais troublé par le fait que ces jeunes ne m'ont pas répondu de façon très directe en me disant « il faut être ferme ». Ils n'ont pas répondu de façon qui signifie le rejet total et brusque vis-à-vis de ces...
Il y a une incompréhension.
Il y a une incompréhension et peut-être même il y a une sympathie chez certains. Donc je me suis dit, il y a là un parcours qu'il faudrait explorer. Et donc il y a un danger. Peut-être même ces gens-là peuvent aller dans ce sens et prendre ce chemin grave et catastrophique. Et j'ai dit, là, je suis devant des terroristes moins quart. Et donc, il faut tout de suite aborder le sujet. Et je me suis mis à prendre des contacts, à faire des enquêtes, à enregistrer des témoignages. Et la question que je me suis posée, comment se fait-il que deux personnes appartenant à un réseau terroriste, parfois ces gens-là qui n'ont même pas le sixième primaire, qui n'ont pas le certificat d'études primaires, peuvent manipuler quelqu'un qui a son doctorat? Et alors que l'État, avec toutes ses structures, toutes ses institutions, tous ses médias, toutes ses élites, n'arrive pas à le capter, ce personnage-là. Donc je mets en question cette société-là dans laquelle nous vivons, et j'envoie un signal d'alarme pour dire faisons attention, parce que si aujourd'hui le terrorisme prend la couverture religieuse, demain cette couverture sera complètement dépassée, et puis on risque d'avoir des actes sous couvert d'autres choses qui sont dans l'ordre du social, dans l'ordre du refus, du rejet culturel, du rejet social et autres. Donc il faut intervenir. Donc ma pièce, au fait, croyant que l'action culturelle peut remplir un rôle irremplaçable dans la lutte contre le terrorisme, comment le traduire sur scène? En tant qu'artiste, j'ai voulu, au fait, dans mon spectacle Terroriste moins quart, mettre face à face l'artiste avec l'obscurantisme, avec ce projet terroriste. Donc, la pièce parle d'un auteur qui est en face de son personnage central. Mon personnage central, c'est le terroriste Mancard. Et ce terroriste Mancard, finalement, il n'est pas content du profil que je lui donne. Donc, on assiste à un face-à-face où l'on voit ce personnage terroriste Mancard se révolter contre son auteur que je suis. Et je soutiens l'idée qu'il faudrait résister à ne pas se laisser, à ne pas me laisser emporter par sa rage et sa colère. Je ne désarme pas et je tiens à désamorcer la bombe que le terroriste Moincar porte. porte en lui. Finalement, c'est ça mon action en tant qu'artiste sur scène, en tant qu'auteur de la pièce. Je dis bien, c'est un terroriste au manquard. C'est comme une heure manquard. Attention, ce n'est pas un terroriste que je mets en scène.
Mais un projet.
Il y a un projet. Bon, donc, moins quart. Donc, le quart, c'est le champ de bataille. Parce que le personnage est, au fait, en rapport avec l'auteur. Quand il lui raconte que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, ils sont venus le voir pour le manipuler, patati patata, au café. Ils lui ont donné un peu d'argent pour aider sa mère à se soigner, patati patata. Et puis, hop. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a 2 ans et demi, 3 ans. Alors l'auteur lui dit, bon, on va rectifier. Comment tu vas rectifier? Eh ben, on fait un zoom en arrière. Et on va changer les choses. Comment on zoom en arrière? On change les choses, c'est fini, le temps est passé. Non, le temps est passé dans le réel, mais au théâtre, non. On peut retourner en arrière et changer ce qui s'est passé. Le passé peut devenir présent et le présent peut devenir le futur.
Mettre ces mots de la société, traiter de tous ces problèmes sur scène et utiliser le rire pour parler de sujets aussi graves comme le terrorisme, c'est important, mais c'est certainement pas facile.
Oh là là, c'est très difficile. Ouais. Je vous cache pas que ça m'a... Je vais vous dire, ça m'a fatigué, non, c'est rien la fatigue par rapport à ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu plutôt. Et même je suis tombé malade, quoi. Je veux dire, à cause de ce personnage. Parce que j'ai voulu être dans un rapport de vérité avec ce personnage. La culture est une réponse, la création artistique est une réponse. L'acte artistique est un acte libérateur, émancipateur. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Voilà la magnifique interview de Raouf Ben Yahlan, réalisée par Mayada Sili pour cette pièce, Terroriste Moelkar. C'est vrai que ça donne un peu froid dans le dos, parce que dans son discours, l'auteur dit qu'il y a parfois même un peu, allez, de sympathie pour les terroristes de la part des jeunes. Souvent, on est à la limite et il faut justement que ces jeunes évitent de sombrer dans l'obscurantisme. Et c'est là qu'il faut intervenir.
Mais oui, mais il a touché une question très, très importante quand il a dit que comment quelqu'un qui n'a même pas eu un certificat de 6e primaire, c'est-à-dire le certificat élémentaire, l'éducation élémentaire, et il peut manipuler quelqu'un qui a son doctorat. Et l'État a avec toutes ces structures, toutes ces institutions, tous ces médias, toutes ces élites, n'arrivent pas à capter ce personnage. Alors, il a vraiment tiré la sonnerie d'alarme sur que le terrorisme aujourd'hui utilise la religion, c'est vrai, mais il a d'autres éléments qu'il peut utiliser plus tard. Donc, c'est pour cela, c'est ce côté qu'il a dit, le quart qui reste, que personne n'a jamais regardé ce quart-là. Ou peut-être c'est une façon de comment éradiquer ce terrorisme. C'est à partir de là qu'il faut commencer.
Et c'est vrai que la culture est ce genre de pièce pour dénoncer ou pour alerter, je dirais, les pouvoirs publics aussi, de cette dangerosité, de ce passage à l'acte qui, ça se joue à rien finalement, et c'est là qu'il faut être, attentif. C'est aussi une arme contre le terrorisme. Et une question d'ordre plus général, Dina, est-ce qu'en Égypte, il y a justement de la création artistique qui va un peu dans ce sens aussi pour lutter contre le terrorisme?
On l'avait depuis tout le temps, parce que le terrorisme a commencé en Égypte depuis 20 ans, dans les années 90. Donc on a commencé, il y avait beaucoup de productions cinématographiques qui parlaient, qui traitaient de ce genre de terrorisme. Mais maintenant, le terrorisme a pris une autre forme. Donc il faut... et on a, parmi les feuilletons, comme je viens de dire, pour le mois de Ramadan, on fait une grosse production de feuilletons arabes télévisés. Il y a parmi eux des feuilletons qui traitent le terrorisme et comment ces jeunes sont tombés en proie sous le terrorisme et comment on les capte et qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher d'être des terroristes, quoi.
Voilà, donc il faut que tout le monde s'y mette. Bien entendu, la culture a un rôle énorme à jouer. On va rester en Tunisie avec une chanson que tu nous présentes, Dina.
C'est la chanson de Silm Haf, Renaya Mendami.
How can I pour love into you, Ali? Between the sea and the water, I'm just fishing. I'm fishing with the feeling that I'm being.
بالتواليت تنشق الكياس تسمعني الملايين خب مش كان الجناس اسمحني موضوع صغير نحكي فيه ما فيها بس الحقيقة راني حرتة متهنى لبس خان فيا بولاد اصحابك مش الكلنا كيف كيف كنت ماذا بيك نشد البير وكان نغني في السيف شهريتي والمستقبل كل شي واضح ونظيف حبيت تراني عامل يوم يقوم الستة بالكيف خرج الحوت الفوق الماء وترحالي بالغناء ضحيت سنين على الدبلوم كنت في حالة اغماء يوم حل معايا قادر خلص الكراي واذا طاحت بيا باقي الحمد لله برشا ملي كيفي وفي في صوت الدباء يكتبوا عصفه هو سي.
Et comme chaque semaine, notre agenda culturel, Edina, on commence avec l'Égypte.
Depuis sa première édition en France en 1982, la fête de la musique est rapidement devenue le rendez-vous emblématique de l'été. Aujourd'hui, elle est célébrée par plus de 120 pays dans le monde. L'édition 2017 aura lieu le 17 juin au Parc des Lazars au Caire et le 18 juin à Alexandrie. 6 scènes, plus de 20 artistes du jazz, du rock, du hip-hop, de la pop acoustique. Le programme ravira les mélomanes d'un soir ou de toujours.
Ajaccio fête la Saint-Érasme. Le saint patron des pêcheurs est honoré avec 5 jours de festivités autour de la Vesta di Pescarori, ça veut dire la fête des pêcheurs. Au programme des repas sur le thème de la mer, de la musique en live avec de nombreux groupes, un concours de chant, des conférences et la traditionnelle procession en mer. RCFM, France Bleu, est partenaire de cette manifestation qui attire beaucoup de monde sur le port d'Ajaccio. Saint-Érasme est également célébré dans d'autres ports de Corse, comme notamment Propriano.
Le parc du Retiro, le poumon vert du centre de Madrid, accueille une année de plus la 76e foire internationale du livre. Cette année, le Portugal et les lettres portugaises sont les invités d'honneur de ce grand rendez-vous de la créativité et de l'édition mondiale. La foire, qui a été officiellement inaugurée le vendredi 26 mai par le roi Felipe, la reine Laetitia et le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, se poursuivra jusqu'au 11 juin.
Alors comme le Portugal est à l'honneur, un petit cadeau avant de conclure ce cantara. Nous allons écouter la chanson qui a remporté le concours Eurovision 2017. C'est donc une chanson portugaise. Son titre « Amar Pelos Dois » elle est chantée par Salvador et Sobral.
Si un dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar antes de ti, só existi cansado e sem nada para dar. Preços, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
C'était la chanson qui a remporté le Grand Prix Eurovision. Son titre, Amar Pelos Dois, elle était chantée par Salvador Sobral. Voilà, avant de se quitter, soulignons que Cantara est une coproduction Radio Le Caire, Radio Extérieure d'Espagne, RCFM France Bleu, chaîne Interrabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis chaîne internationale. N'oubliez pas de jeter un œil sur notre page Facebook pour y retrouver nos reportages, pour écouter ou réécouter votre Cantara. Voilà, Cantara est terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir Dina, à la semaine prochaine.
Au revoir Thomas, à la semaine prochaine, au revoir tout le monde. Encore une fois, joyeux Ramadan.